Bonjour et bienvenue à tous pour ce 7e numéro de Présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Noël approche à grands pas et nous voilà à nous demander quel parfum choisir pour la bûche de Noël, fruits rouges ou chocolat ? À nous enguirlander autour de la décoration du sapin et à nous torturer pour trouver le cadeau idéal pour nos amis. Et dans tout cela, la politique, me direz-vous ? Ben, la politique passe après le Père Noël, c'est bien connu, même quand notre président ressemble à un lutin. D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence si, au mois de décembre, le seul vrai événement qui ait lieu, c'est la cérémonie de Miss France, vaste défilé de dindes farcies, subventionné par Rungis et présenté par un Jean-Pierre Foucault endimanché qui a réussi à se débarrasser de la vieille de Fontenay. Elle commençait à faire trop peur aux enfants. C'est Noël, Geneviève, Halloween, et hop, viré. Non, j'ai beau chercher, en politique, le mois de décembre est un mois sinistré. Avant, on avait bien les Bonaparte qui organisaient des petits trucs sympas le 2 décembre. Une grosse soirée après un sacre, une victoire, tout ça parce qu'il fallait trouver un nom à une gare, un coup d'état histoire de se réchauffer, ou encore une petite proclamation d'empire. C'était un peu les guettas du mois de décembre, toujours à trouver l'idée originale pour créer l'événement. Mais la tradition s'est un peu perdue, va savoir pourquoi, et plus aucune nouvelle des Bonaparte. Du coup, pour présidence, le mois de décembre, c'est pas vraiment le meilleur mois. Et puis, qu'on soit clair, les gens, à Noël, ils n'ont pas trop envie qu'on leur parle de politique. La faute à l'esprit de Noël. La faute au vieux bonhomme bedonnant qui fait systématiquement sauter les enfants sur ses genoux sans que ça choque personne. La faute au gros barbu en rouge dont on a tendance à oublier qu'il a commencé par poser chez Coca-Cola et que ce n'est qu'un avatar amerlog de la société de consommation moderne. Bref, à présidence, le Père Noël, il commence à nous chauffer les marrons. Et puis, dans l'euphorie du mois de décembre, on n'allait quand même pas vous faire un numéro de présidence sur la pauvreté en France. C'est bien connu qu'en décembre, tout le monde a les moyens de se payer du champagne et que les SDF soupirent d'aise devant la neige et son beau manteau blanc. Non, cela aurait été déplacé. L'écrivain anglais Thomas Tusser disait « À Noël, amusons-nous, profitons-en, car Noël, ce n'est qu'une fois par an ». On s'est donc dit qu'on allait coller à l'esprit de Noël et jouer avec l'actualité politique, ça vous dit ?
Oh oui !
Un mot d'ordre, bonne humeur. Et pour cela, vous pouvez compter sur Jérôme Bastic.
Bonjour à tous.
Sur Antoine Jaya.
Bonjour.
Pour rire et sourire avec son billet d'humour et d'humeur. Et enfin sur Amos Reichmann.
Bonjour, joyeux Noël.
Et son carnet de campagne personnel. Et oui, on en profite, Amos est encore une fois parmi nous en studio.
C'est Noël.
Chic. Et d'ailleurs, Amos, il est temps de voir ce que tu as retenu dans ton carnet de campagne de l'actualité politique de ces dernières semaines.
De la campagne au fleuve, il n'y a qu'un pas. Et les froides eaux dans lesquelles se sont baignés nos chers candidats ces dernières semaines furent celles du Rhin. Que ferions-nous sans l'Allemagne ? Sans elle, la campagne perdrait une partie de son charme. Adieu bière, adieu rigueur. La semaine dernière, François Hollande était en Allemagne, accueilli en grande pompe par ses camarades du SPD allemand et par le premier secrétaire local, le fameux Sigmar Gabriel, aussi inconnu de notre côté du Rhin que François Hollande l'est en Allemagne. Le même jour, c'était la chancelière, la terrible Angela, pour le coup star en son continent, qui était à Paris pour discuter survie de l'austère humanité avec Nicolas Sarkozy. À l'est du Rhin, on rêvait d'entrer dans les palais. À l'ouest, on cherchait les meilleures stratégies pour garder le pouvoir. À l'est, Hollande cherchait à acquérir cette fameuse stature internationale qui fit tant défaut à Ségolène en 2007. Tout sauf la bravitude. Mais à l'ouest, au petit jeu du dynamitage, Sarkozy n'a pas été mauvais. Merkel à l'Elysée, et c'est le régime international de Hollande qui tombe à l'eau. L'annonce d'un nouveau traité européen que les parlements devront ratifier après les élections présidentielles et législatives de 2012, avec la joyeuse règle d'or à inscrire dans la Constitution, c'est un boulet de canon dans les derniers bourrelets du candidat des socialistes. Et oui, cher François Hollande, un jour il faudra choisir, être clair. Et Sarkozy excelle pour mettre en difficulté son concurrent. Hollande est contre la règle d'or, mais pour sauver l'Europe. Alors Sarkozy, Machiavel au petit pied, décide de sauver l'Europe avec la règle d'or. Le président doit bien savoir que la règle d'or n'est pas une solution miracle, qu'elle risque d'être un frein à la relance économique, qu'elle va faire souffrir les plus démunis. Mais sa réélection vaut bien quelques arrangements avec la réalité. Alors on s'interroge. Nous sommes en décembre 2011 et Sarkozy est président d'un pays en crise, dans une Europe en crise. Dont acte. Pourtant, Sarkozy président semble avoir les yeux rivés vers mai 2012. À Toulon, 3 ans après un premier discours grandiloquent sur la crise, sur son ambition de moraliser le capitalisme, Quelle réussite! Le président est revenu triomphant pour un discours fleuve de candidat président. Un déplacement à 300 000 euros. 300 000 euros que les Français de gauche, de droite, apolitiques, ont contribué à financer. Alors, on n'a rien contre un président pédagogue qui explique ce qu'il fait, qui vient écouter les Français. Mais un guignol qui squatte nos télévisions et notre espace avec les derniers euros qu'il reste aux Français, non merci. Sarkozy en campagne parle de l'Allemagne, d'une Europe fédérale mais pas trop, d'une France souveraine mais plus trop. Il semble naviguer à vue, écoutant les conseils de la vertueuse chancelière. C'est que sa victoire, pour le coup, elle ne l'a pas fêtée sur le yacht d'un milliardaire teuton. Les Allemands, justement, ce sont eux qui s'attirent les foudres de certains. Montebourg évoque Bismarck, la droite crie à la germanophobie. Hartung, on ne dérape pas. Deux guerres mondiales, ça suffit. Et puis, faut pas oublier celle de 70. Dans deux ans, c'est 2014. Le centenaire de la DDR qui s'est avéré être la première. Alors, on ne joue pas avec le feu. Et baise-moi Angela pour tout le monde. On ne va quand même pas empêcher Franck Ribéry de ramener ses prostituées de Paris à Munich. Et pourtant... Le fantasme de l'Allemand envahisseur revient. C'est dans le point que la plus funeste des attaques a été lancée. Eva Joly, la franco-norvégienne caricaturée avec un accent allemand par un de nos nouveaux clowns tristes au nom prémonitoire, Monsieur Besson. Aujourd'hui Patrick, article puant, article raciste, qui rabaisse un peu plus la triste campagne que nous subissons. Enfin, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que Besson, Eric, aurait annoncé vouloir quitter le monde politique pour s'attaquer au monde du football. Cher traître, bon vent. Les transferts sont mieux acceptés dans le monde du ballon rond qu'en politique. Au registre des surprises, la révolte dauphine. Non, 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 il ne s'agit pas de dauphins à pêcher dans le Rhin, beau fleuve au demeurant. Et je vous rassure, Frédéric Nius, le candidat chasseur n'a pas ramené ses potes pour un petit jeu d'attrape dauphin, jambon, baguette au fusil. Rien de tout cela. Dauphine, c'est l'université parisienne dans laquelle Marine Le Pen devait intervenir pour parler économie avec les traders de demain. Et plus sublime que Flipper, Dauphine s'est levée, barrant la route à la candidate frontiste. No pasaran, Marine Le Pen n'a pas eu le droit à la parole. D'aucuns crient au scandale, à l'atteinte à la démocratie. On aurait bâillonné la fille du borgne. Mais c'est bien parce qu'elle est la fille du borgne qu'elle a repris le flambeau frontiste qu'on ne doit pas la considérer comme une candidate banale. Marine Le Pen est la candidate du moins républicain des partis. Marine Le Pen est la plus dangereuse des candidates. Et jamais sa parole ne devra être banalisée. Il y en a un qui a ouvert la bouche, enfin. C'est François Bayrou. Il s'est déclaré candidat à la présidentielle en homme libre, je le cite. Et si le Palois nous surprenait? Et s'il était celui qui remettait la France en marche? Qui dépassait le moribond sarkozisme et la tiédeur hollandaise? Oh, si seulement. Prendre le Rhin, pas sûr qu'on y arrive demain. Mais avec Bayrou candidat, à défaut du fleuve, c'est le Morin qui est pris jusqu'au cou. Et dire qu'il était ministre de la Défense.
Merci Amos. Donc on aura retenu les derniers bourrelets de François Hollande et Nicolas Sarkozy, Machiavel au petit pied, moi ça me va. Nous allons continuer à parcourir l'actualité politique de ces dernières semaines, mais d'une autre manière, en jouant dans la bonne humeur. Vous êtes prêts à jouer autour de la table?
Ouais.
Alors on commence avec une petite question. Alors, qui a dit « Un âne candidat, ça s'est déjà vu, mais un âne président, jamais. » Alors, qui a dit ça? Et à propos de qui? Un âne candidat, ça s'est déjà vu, mais un âne président, jamais.
Luc Chatel, le ministre de l'Éducation nationale. Qui...
Ça aurait pu, mais c'est pas lui.
Oh, avec Astérix, c'est...
Il a pas tout fait.
Et baba.
Un âne candidat, ça s'est déjà vu,
qui,
mais un âne
qui pourrait être un âne candidat en ce moment?
Nicolas Sarkozy.
Tous.
Un âne candidat, ça t'est déjà
avec
vu.
Avec de grandes oreilles, ça ne peut
jamais
être que le cher candidat du MoDem, dont je tairai le nom par respect.
Alors on se rapproche, mais c'est pas lui.
C'est
ça se situe bien au centre.
C'est Morin. C'est Morin.
Alors l'âne candidat, c'est Morin, mais alors qui a dit ça?
Quelqu'un de droite.
C'est Jean-Louis Borloo.
C'est Jean-Louis Borloo qui a dit ça. Et il n'a pas été le seul à taper sur Hervé Morin, puisqu'en effet, Nicolas Sarkozy aurait dit, c'est le canard enchaîné qui nous le fait signaler, il aurait dit ça, je n'ai jamais eu beaucoup d'admiration pour lui, mais là, il se surpasse. Il est à 0,5% dans les sondages, il n'a pas d'équipe, pas de parlementaire et il veut être candidat. En plus, c'est un con qui a dit beaucoup de conneries quand il était ministre.
Ah, Charles de Gaulle est parti de loin également.
Charles de Gaulle était aussi un con qui a dit beaucoup de conneries quand il était ministre.
Je ne sais pas. Mais
on tape sur qui tu veux, mais pas sur le général.
Mais n'estimons pas Hervé Morin.
Non, mais faut arrêter de cracher sur Morin, c'est trop facile.
Et puis en plus, il a été lâché par tout le monde, c'est vrai.
Ouais, même son parti.
Oh, il a lâché tout le monde aussi. Il a lâché son parti aussi en 2007.
C'est vrai qu'il a un peu commencé. C'est ça le problème avec Hervé Morin. C'est son problème de communication. Je veux dire, l'idée du pont de Normandie, c'était quand même.
Non, mais il y avait déjà la cuisine. Hein.
C'est vrai, il y avait la cuisine.
Pour les vœux de.
Pour les vœux,
il a cette illusion dans une sorte de tour d'ivoire où il pense avoir une possibilité d'entrer à l'Élysée, mais c'est complètement. C'est du fantasme pur, toi.
Ah, il a des chevaux, enfin.
qui peuvent. Non, mais... bah, pour le pont de Normandie, c'était quand même donner des bâtons pour se faire battre, je sais pas. Il y a André Santini qui a déclaré sur France 2: Hervé Morin va sauter du pont de Normandie, mais je ne sais pas si le caoutchouc est fixé. Enfin, quelle idée d'aller sur un pont pour déclarer une candidature. C'est en 2007, la troisième force politique, c'était le centre. Il en reste quoi de la force centriste en 2012?
Eh bien, elle est pas mal dispersée, la force centriste en 2012. En 2011, en tout cas, pour l'instant.
Oui.
En 2012, on peut penser que peut-être il y aura des réunifications.
Ouais. En même temps, Bayrou, il était à 5,5 il y a encore 3 semaines, quelque chose comme ça. Maintenant, il est presque à 9. Il était à peu près au même niveau, je crois, il y a 5 ans. Donc, pourquoi pas? Ça se trouve, il va nous refaire le coup. Puis...
En 2002, il était parti à 2, il avait fini à 6, 7.
Ouais. 2007, il avait commencé qu'il à 9, il avait fini à 18. Il fait 10 points par élection.
Ouais, ouais, non, mais je.
7, 17,
donc
27.
La prochaine
peut-être.
Fois, il est au second tour, c'est ça?
En tout cas, je pense qu'il y a clairement un espace pour le centre en 2012. Si Sarkozy continue à se droitiser, si Hollande continue à être flasque.
pas à se gauchiser, c'est le problème.
Non, pas à se gauchiser, mais même va savoir. S'il fait accord avec Mélenchon, Bayrou le sage, au-dessus des partis.
Oui, il essaie de réincarner le gaullisme quand Sarkozy ne peut plus le faire.
Ça a plus de gueule que Morin, il faut bien le reconnaître.
Mais non, c'est vrai.
Que son pont de Normandie. Oui. Alors, deuxième question. En déplacement dans la Drôme, à Pierrelatte, pour les connaisseurs, le 25 novembre exactement, pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il déclaré « La nuit, il n'y a pas de soleil »
Parce que Julia Sarkozy pleure toutes les nuits.
Oh, c'est mignon, mais c'est pas ça.
J'y croyais.
Alors pourquoi il a dit la nuit, il n'y a pas de soleil?
Parce qu'il a une intelligence limitée.
À propos de quel sujet,
la nuit est un soleil.
Ah, pour les éoliennes, un truc comme ça.
Ouais, bon, alors pas les éoliennes, parce que ça marche pas avec le soleil.
Avec le photovoltaïque.
Excusez-moi, essayé, petit détail. C'est pour ça que ça marche pas chez moi.
Ça s'appelle comment donc?
Photovoltaïque.
Voilà, c'est ça.
Panneau solaire.
Oui, donc en fait, c'était ça. Oui.
Panneau solaire pour les vernaculaires.
Alors lui, il dit il y a la nuit, il n'y a pas de soleil, donc l'énergie.
La nuit est un soleil.
Mais donc l'énergie solaire, on ne peut pas l'utiliser en tout cas. L'énergie solaire, on ne peut pas l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il dit il faut garder les centrales nucléaires. Le problème avec.
Mais le jour, il y a du soleil. Enfin, je vois pas.
Oui, c'est ça.
J'ai pas compris.
Bah, le jour, ça marche.
Ça marche. Donc.
Oui, non, mais je ne défends pas ce que dit Nicolas Sarkozy. Je reprends, j'explique. Il dit la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, il faut pas mettre de l'énergie solaire partout parce que ça fonctionnera pas. Il faut garder le nucléaire.
Mais ça stocke le soleil, non? C'est comme le bronzage, quoi. Ça reste.
Ça capte pas la nuit, quand même. Ça, c'est vrai.
Non, mais tu vois, si ça éclaire la journée.
J'adore les conversations littéraires qui essayent de parler science.
Bon, on va se taire, c'est ça, on a compris.
Oh non, non, bah non. Non, mais c'est vrai que c'est un problème, les énergies renouvelables. On a très peu de pourcentage d'énergie aujourd'hui qui sont produites en France par les énergies renouvelables. C'est 5-6%, pas plus. Et il y a vraiment nécessité à trouver un nouveau modèle énergétique, c'est ça le problème.
C'est-à-dire que ça se situe plus au niveau de la recherche. À mon avis. Enfin, l'an dernier, on avait fait une émission sur le nucléaire avec Le Monde ne suffit pas. Je fais de la pub aussi pour mon autre émission. Et notre invité nous avait raconté qu'on avait fait des calculs et pour compenser, pour être exclusivement aux énergies renouvelables en Angleterre, il aurait fallu... mettre des éoliennes partout sur les côtes anglaises et que c'était complètement... À l'heure actuelle, ça ne peut pas suffire même si on veut déployer beaucoup d'énergie, donc à mon avis, d'énergie politique. Donc à mon avis, c'est plus une question de recherche que de...
Le problème, c'est qu'on ne met pas d'argent dans la recherche non plus.
Non,
ça,
pas
c'est une question d'énergie politique.
Aussi, voilà,
c'est
ça.
C'est bien.
Même si on voulait, dans l'heure actuelle, on ne peut pas le faire.
Carter, quand il était candidat en 1974, il déclarait « Nous devons changer nos modes de vie » en 1974. « Soit nous faisons ces changements de notre propre initiative et de manière planifiée, et si nous attendons trop, nous serons forcés de les faire dans le chaos en subissant la loi implacable de la nature. » Il disait ça en 1974, et on n'a toujours pas évolué. C'est...
On arrive en 2012, la fin du monde, le chaos, annoncé par Carter.
Sur ce constat, troisième question. Patrick de Villenoisy a lancé à Montfermeil sa candidature aux élections présidentielles il y a déjà plusieurs mois.
Et oui. Non, c'est pas vrai.
Si j'en ai
et,
même pas.
Et il espère, recueillir
c'est
les 500... Mais alors, je peux poser ma question avant que tu donnes la réponse.
Pardon.
Donc, qui est Patrick de Villenoisy?
Bah, c'est un monarchiste, c'est tout ce que je sais.
Est-ce qu'il est héritier
Ah non, non, non.
Non, il est
en
pas
ligne, en direct ou direct.
Non, non.
Même
non,
pas.
Non,
il y a un parti.
Enfin, il a une légitimité, ce type.
En fait, c'est le candidat de l'Alliance royaliste.
Ah, il cède sa place.
Oui,
il cède sa place quoi, au comte de Paris.
Je sais pas.
Ah, je sais pas lequel il soutient. Oui, certainement le comte de Paris.
Comment tu l'appelles ?
Il s'appelle Patrick de Villenoisy.
On va lui couper la tête.
Non, mais ils ont quand même des propositions. Hein.
Ah,
sur le site, c'est marqué « Nos propositions politiques sont fondées sur des valeurs royales ». Donc déjà, ça commence bien. Alors, les valeurs royales sont, deux points, la dignité de la personne humaine, la famille, le patrimoine, la solidarité, l'unité de tous et la liberté de chacun.
Ça me rappelle d'accord. le programme d'une candidate de
Christine
2007
Boutin.
Au prénom Ségolène.
Ah non, Ségolène, d'accord.
Royal, oh, c'était
c'est
ça.
Méchant.
Solidarité.
Non, mais il veut faire des trucs bien. Il veut, dans son programme, il y a la réforme de la fonction publique, avec un statut de fonctionnaire qui serait réservé aux emplois spécifiques de l'État et qui donne des privilèges en contrepartie d'une disponibilité, d'une limitation du droit d'expression.
On va retrouver nos privilèges.
Ouais, mais pas pour
gars.
Nous, parce que limitation du droit d'expression quand même.
Ah, alors la fin de présidence.
Ouais, ah oui, bon.
Non.
Il veut faire des privilèges.
Il veut renforcer l'institution de la famille.
Mais il a raison.
Quand même. Il veut faire une armée
de
volontaires.
De fête.
Plus de dinde.
Et,
de cadeaux,
et on sait combien de signatures il a
Non, on ne sait pas. On ne sait pas s'il a les 500 pour l'instant.
Il n'est pas loin. Là.
Et il n'est pas très médiatisé. Il est passé au petit journal.
Il est passé au petit journal. C'est pour ça que je l'ai vu.
Ouais. On voit les connaisseurs. Alors, qui, Daniel Cohn-Bendit, a-t-il accusé de faire du Front National à gauche?
Arnaud Montebourg.
Et pourquoi?
Bismarck, parce que Arnaud Montebourg est plus à gauche que Daniel Cohn-Bendit et Daniel Cohn-Bendit ne le supporte pas.
Ce n'est pas la bonne réponse, désolé.
Non, c'est sur l'histoire où il comparait Angela Merkel à Bismarck.
Ça. Voilà, ouais. Il a dit une politique à la Bismarck, un nom qui reste dans l'inconscient collectif français comme un symbole de l'ennemi héréditaire, en parlant de l'Allemagne. Un nom qui évoque la Prusse, le Reich, la guerre de 70 et la perte de l'Alsace et de
l'Allemagne. Je crois que Daniel Cohn-Bendit surestime la culture historique des jeunes français, parce que Bismarck...
Mais ça, c'est Arnaud Montebourg qui dit ça. C'est Arnaud Montebourg qui a déclaré ça.
Arnaud Montebourg...
Je ne dirai rien.
Si, si, vas-y, critique Arnaud Montebourg, ça fera du bien.
Arnaud Montebourg a une très haute estime de la culture des jeunes Français.
Donc c'était la minute langue de bois d'Amos, ça nous raconte. Et on finit avec cette question. La Cour des comptes a dénoncé une dépense de 180 000 euros faite par le ministre Éric Besson. Mais à quoi a servi cette somme d'argent? 180 000 euros. Un petit indice, ça n'a pas servi à faire une loi ou c'est pas un projet de loi.
Ah non, mais j'imaginais bien. De la part d'Éric Besson, ça aurait été trop beau.
C'est lié à sa chevelure et à sa capacité de parler en public.
Ah oui, c'est ça. Alors développe.
Ouais, ouais.
Ah. Éric Besson est un jeune homme mal dans sa peau qui a mal accepté d'être un transfuge. Éric Besson a eu envie d'apprendre à parler en public.
Éric Besson souffre.
Et pour 180 000 euros,
Est-il
il a pris des cours de communication.
Oui, c'est ça. Il a pris pour 180 000 euros de cours de communication.
Mais, avec l'argent de...
Ah bah évidemment,
avec ton argent.
Mais il n'a pas le droit.
C'est pour ça que ça choque et que la Cour des comptes a fait un rapport en dénonçant cette dépense abusive.
Mais entre faire un rapport... on va faire un rapport, on va s'arrêter là. Il devrait démissionner tout de suite. D'ailleurs, il va le faire, mais bon...
Attendre 2012.
Oui, il va attendre 2012, mais c'est pas normal qu'on laisse faire.
Bah, d'ailleurs, vous avez entendu, Nicolas Sarkozy peste contre lui parce qu'il
est toute la journée sur Twitter.
Voilà, c'est ça, il tweet tout le temps alors qu'il est quand même ministre de l'Industrie. On sait que l'industrie française, il y a un petit problème quand même.
Dans ses cours de communication, qu'il fallait tweeter pour être.
En fait, c'est à cause des 180
000 euros pour s'inscrire à Twitter alors que c'est gratuit. Bravo l'UMP.
Et ben, on va rester là-dessus. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin et notre jeu est terminé.
C'est déjà fini.
Oui. Sniff. Ne soyez pas triste parce que l'émission continue quand même. Si Présidence parcourt avec vous l'actualité politique dans la bonne humeur, comme nous venons de le faire, nous sommes également là pour pointer du doigt tous les coups bas, manipulations, contre-vérités, polémiques et petits travers de nos hommes et femmes politiques. C'est la rubrique Alerte Rouge. En ce moment, c'est un peu haro sur les parachutés. Cela a commencé avec la charge tonitruante de Rachida Dati contre le parachuté de la Sarthe. François Fillon, le Premier ministre qui, pas folle la guêpe, pense déjà à l'après-Matignon et brigue un siège de député à Paris. Cela a continué avec Bertrand Delanoë, qui s'est insurgé contre l'arrivée à Paris de Cécile Duflot, laquelle a répliqué avec humour « Pour aller de Villeneuve-Saint-Georges, dont elle est maire, à Paris, on ne prend pas l'avion, juste le RER ». Mais Bertrand Delanoë, cela ne l'a pas fait rire du tout, du tout. Le maire rose était tout rouge de colère contre la secrétaire des Verts. « C'est une pratique délétère pour la démocratie, c'est une façon datée de faire de la politique », a-t-il déclaré dans Libération. Il était tellement en colère qu'il en a oublié qu'à l'été 1985, il avait fait du parachute au-dessus d'Avignon. Et que ce n'était pas son baptême de l'air puisqu'il avait déjà quitté l'Aveyron, où il tenait la Fédération socialiste, pour devenir député de Paris 4 ans plus tôt. Alors, si Cécile Duflot s'essaye au parachute, Bertrand Delanoë pourrait bien être son moniteur, qu'est-ce que vous en pensez? En politique, il y a les parachutés, les hypocrites qui les condamnent après l'avoir beaucoup pratiqué, mais il y a aussi ceux qui le refusent. C'est le cas de Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole de François Hollande et habitué de notre micro, qui s'est vu proposer une circonscription en or, celle de Villeurbanne, une circonscription imperdable. Sauf que la circonscription d'origine de Najat Vallaud-Belkacem, ce n'est pas Villeurbanne, c'est la quatrième du Rhône, où le contexte politique est moins favorable. Mais Najat Vallaud-Belkacem s'en moque. Elle préfère aller au casse-pipe contre Dominique Perben. La beauté du geste mérite d'être saluée et vaut bien un cierge à Fourvière contre les parachutés. Hervé Morin, président du Nouveau Centre, a déclaré « Si un type me plante une éolienne dans mon champ de vision, je vends ma baraque. Je vous assure que ça m'angoisse, une éolienne. » « Oh, Hervé, mais non, faut pas avoir peur. C'est mignon tout plein, une éolienne. Je sais pas si ça t'effraie à ce point. Tu n'as qu'à te dire que ce n'est rien d'autre qu'un ventilateur, mais en plus gros. Et puis, je ne comprends pas, les trucs qui brassent de l'air, en général, ça t'est familier, non ?» Corinne Lepage, mais si, vous savez, la candidate crédible qui pense qu'elle va réindustrialiser la France en sortant du nucléaire. Corinne Lepage, donc, a récemment attaqué Eva Joly en disant « La seule légitimité environnementale d'Eva Joly est d'être la candidate d'Europe Écologie Les Verts. » Je sais pas vous, mais moi, Corinne Lepage qui donne des leçons de légitimité environnementale, moi, ça me fait mourir de rire. C'est vrai, c'est quoi sa légitimité à Corinne Lepage? D'accord. Elle a été ministre de l'Environnement de 1995 à 1997. Bonne petite jupette qui a consciencieusement brillé par son inaction. Qu'a-t-elle dit lors de la reprise des essais nucléaires? Rien. Qu'a-t-elle fait lors du redémarrage du réacteur nucléaire Super Phoenix en septembre 1995? Toujours rien. S'est-elle insurgée lors de la réduction du budget de l'environnement? En silence, peut-être. Ou était-elle lors des difficultés de mise en place de la directive européenne Natura 2000? À Baden-Baden, comme De Gaulle en son temps? Corinne Lepage, ministre fantoche? Oh ben non! Elle a tout de même fait adopter un projet concernant la pollution de l'air. En 2 ans, elle n'a pas chômé, la Corinne! Corinne Lepage a donc bien été ministre de l'Environnement, mais je ne suis pas sûr que son bilan lui permette de donner des leçons de vertu et de morale dans ce domaine. D'accord? On lit aussi partout que Corinne Lepage a participé à la création de Génération Écologie en 90. Oui, elle y a peut-être participé, mais elle n'en a pas été la fondatrice non plus, faut pas exagérer. Génération Écologie, c'est Brice Lalonde, Jean-Louis Borloo et Noël Mamère. Pas Corinne Lepage. Corinne Lepage, elle, c'est Cap 21, qu'elle a créé en 1996. Vous n'en avez jamais entendu parler? Oh bon? Avec ce parti, Corinne Lepage est tout de même arrivée en 14e position sur 16 candidats au premier tour des présidentielles de 2002, avec 1,88% des voix. C'est quoi la légitimité de Corinne Lepage dans le monde politique? À part passer sa vie à emmerder les écologistes, en se targuant d'être la seule vraie écolo de France, pas grand-chose. Après les sociaux traîtres, Corinne Lepage, c'est l'écolo traître? Corinne Lepage, elle est de tous les bons coups pour casser l'écolo. Elle se vante d'avoir participé à Génération Écologie, mais on oublie trop souvent qu'il avait été créé à l'initiative de François Mitterrand pour concurrencer les Verts avant les élections régionales de 1992. En 2002, quand elle s'est présentée aux élections présidentielles, on l'a accusée d'avoir eu de nombreux contacts avec Jacques Chirac et d'œuvrer de concert avec lui. Pour concurrencer les Verts, alors oui, Corinne Lepage qui parle de légitimité environnementale, moi, ça me fait rire. Alain Madelin, ancien ministre de l'économie, a déclaré dans Le Monde, fin novembre, « L'avenir est au bon salaire, pas au bas salaire ». C'est donc un scoop qu'a décroché Le Monde. Alain Madelin n'est pas mort. C'est une manie, en ce moment, tous les candidats, les ex-candidats de 2002 font leur retour. Mais je ne sais pas, il faut faire quelque chose, surveiller les maisons de retraite. Heureusement que le Parti Socialiste a déjà choisi son candidat. Sinon, on avait droit au comeback de Lionel Jospin en superstar from l'île de Ré, je ne sais pas. C'est... Attention, Alain Madelin a tout de même eu la délicatesse de nous épargner sa candidature. Que Jean-Pierre Chevènement en prenne de la graine. Il est juste revenu dans les médias pour commenter la crise. Et c'est vrai que la situation est tellement complexe qu'il nous faut des experts sur le sujet. Et Madelin, c'est du lourd. L'avenir est au bon salaire, pas au bas salaire. Ça, c'est de l'analyse pertinente. On aurait eu tort de s'en passer. Terminons par la une du Canard enchaîné du 30 novembre. L'euro boit la tasse, l'Europe touche le fond, c'est la faute des agences de natation. Herman Hesse disait « Vous allez apprendre à rire. Pour atteindre l'humour supérieur, cessez d'abord de vous prendre trop au sérieux. » Il ne se prend pas au sérieux et il nous emmène au zénith de l'humour. Voici Antoine Jaya et son billet d'humour et d'humeur de circonstances. Spécial Noël, c'est ça?
En effet. Eh oui, vous l'avez remarqué, le temps s'est refroidi, il fait nuit à 17h, les guirlandes ornent les arbres du centre-ville de Lyon et la fête des Lumières est passée. Ça y est, chers auditeurs, Noël est presque là, avec ses rituels, le sapin, la crèche et les cadeaux. Ah, non, cette année, ça va pas être possible parce que c'est réservé à ceux qui ont leur triple A. Mais bon. Consolez-vous, j'ai une surprise pour vous et elle est de taille. Je crois avoir résolu un grand mystère de Noël. Je n'irai pas par quatre chemins. Après des années d'investigation, je crois avoir trouvé qui est le Père Noël. Bon, je sais, je dois paraître bien présomptueux en arrivant comme ça, prétendant en un tour de main lever le voile sur un mystère si épais qui nous turlupine tous depuis notre enfance. Mais voilà. Je suis en mesure de vous annoncer que le Père Noël est Nicolas Sarkozy. Oh, je suis très sérieux. J'ai des arguments à l'appui. Alors d'abord, pendant des mois, des semaines, on le voit plus. Et puis tout d'un coup, il reparaît. En quel mois? En décembre. Et Noël, c'est quel mois déjà? Décembre. Ha ha! Vous croyez aux coïncidences, vous? Ensuite, pourquoi est-ce qu'on le voit partout en ce moment? Hein? Parce qu'il voyage partout à travers l'Europe. Oui, je sais, il dit officiellement qu'il y va pour sauver l'euro, faire des tournées internationaux et patati et patata, foutaise. Il prépare, dans le secret le plus total, la tournée des cadeaux qui ne manqueront pas, comme chaque année, de remplir de bonheur le visage aux pommettes roses de nos gentils petits chérubins. Et puis, il n'a qu'un mot à la bouche, rassurer les marchés. Ah, ça veut quand même dire ce que ça veut dire, non? Bah, il parle des marchés de Noël, évidemment, vous vivez dans quel monde? Puis il n'y a qu'à voir comment il gère l'État et ses ministres. Hyper-présidence oblige, il traite ses collaborateurs comme ses lutins. Ses réformes ont déçu. Ses ministres ont un QI qui, tous réunis, avoisine celui de la buse ou du mouflon. Oui, parce qu'il faut bien le dire, un mouflon, c'est mignon, mais c'est un petit peu con. Désolé, Jocelyn. Mais c'est normal, qu'est-ce que vous croyez? Ils n'ont pas le temps, ils passent l'année à fabriquer, la nuit, des jouets dans le plus grand secret. Ce qui explique pourquoi le lutin assistant en chef, François Fillon, a des cernes qui ne sont pas loin de rivaliser avec celles de l'inspecteur d'Eric lors des dernières saisons de cette illustre série allemande. À propos d'Allemagne. Oui, bah, oui. Vous avez compris. Bah, c'est évident. C'est... Il va quand même souvent en Allemagne, vous ne trouvez pas, non? L'Allemagne, c'est au nord. Bon, pas autant que le pôle nord, mais quand même. Bah oui, il va retrouver la mère Noël, Angela Merkel. Je sais, on est loin des gravures de mode qui représentent des Slutty Mother Christmas, mais bon, ça, c'est pour brouiller les pistes. Et puis, pour tous ceux qui ont encore des doutes, j'ai un dernier argument et de taille. Vous savez, Noël, on l'attend toute l'année. On nous promet un moment merveilleux partagé avec des cadeaux sublimes. Puis finalement, le jour J, c'est dispute de famille, désillusion, promesses non tenues et indigestion. Exactement comme la présidence de Nicolas Sarkozy. Plus de doute possible, Nicolas Sarkozy est bien le Père Noël, mesdames et messieurs. Bon, j'espère que je ne vais pas déclencher de tempête médiatique et de polémique. Hein. Je dis que la vérité et je signale que c'est le fruit d'une longue enquête qui... Comment ? Non. C'est pas vrai. Bon, d'accord. Excusez-moi, on me signale dans mon oreillette que suite à ma découverte, un mouvement de panique s'est emparé des bourses européennes et que Nicolas Sarkozy va intervenir immédiatement sur toutes les radios et télévisions. Écoutons-le. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Bon, comme vous, j'étais en train d'écouter Transistor. Parce que c'est quand même une radio qui fait un travail absolument remarquable. Et là, j'ai entendu qu'un chroniqueur, d'un talent immense au passage, vient de faire la découverte que j'étais le Père Noël. Alors que les choses sont claires. Oui, aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre le subjonctif et je vous emmerde. Que les choses sont claires, je n'essaierai pas de vous mentir. Je vous dirai la vérité parce que vous la méritez. Je n'ai jamais eu l'intention de vous mentir. Bon, à part sur le « ensemble, tout devient possible », mais fallait quand même être un pauvre con pour pas se rendre compte que c'était n'importe quoi. Oui, je suis le Père Noël. J'aurais dû être plus discret, mais bon, je me suis fait « u ». C'est vrai qu'avec Nadine Morano, Éric Besson, Roselyne Bachelot et David Douillet, on a compris que j'embauchais des lutins et pas des vrais hommes politiques. D'habitude, on met qu'un seul lutin au gouvernement. Parce que quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Mais comme j'ai programmé le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux et saigné l'éducation, bah, y avait plus personne. J'étais obligé de les prendre. Hein. Je continuerai à assumer mes fonctions de président de la République et de Père Noël jusqu'au bout. N'oubliez pas de chanter à Noël « Il est né le divin enfant ». Ça fera plaisir à Julia et à sa mère Carlita. Joyeux Noël, vive la France, vive Transistor, la radio qu'on adore.
Merci.
C'est incroyable! Et dire que quand j'étais petit, je croyais que le Père Noël, c'était les parents. Qu'est-ce que je pouvais être naïf.
Bah, vraiment, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir, merci. Ça le mérite. Alors, notre émission touche à sa fin avec cette intervention du président. C'est la classe, quand même. Hein.
Pourquoi on avait un invité, finalement?
Bah oui, finalement. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé jouer en même temps que nous. Nous, en tout cas, on s'est bien amusés. Merci à Jocelyn et à Xavier en régie pour la technique. Pour réagir et suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez ajouter Présidence parmi vos amis sur Facebook. Je vous laisse en bonne compagnie avec toutes les autres émissions Transistor, et notamment les tables rondes et toutes les interviews que nous avons pu faire en lien avec le Forum Libération des 25, 26 et 27 novembre, qui a été une très grande réussite et on a pris un grand plaisir à le couvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale de Présidence. Antoine, Amos, Jérôme, vous serez là ?
On sera là.
Oui. Nous reviendrons donc dans la bonne humeur sur l'année 2011 et les grands événements de la politique française. Une émission spéciale bilan. Donc à mercredi 21 décembre pour cette émission spéciale fin d'année. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.